Bien. Alors, donc sur 101.4 sur Radio Pleine Lune, nous sommes avec Louise Vandelac qui nous parle entre autres de son livre du travail et de l'amour et qui nous parle aussi un peu des thèmes du travail ménager dont elle parlera plus longuement jeudi soir à la Maison des Jeunes et de la Culture à Genève. Alors Louise, j'aimerais te poser une question parce que moi j'ai essayé de discuter avec des femmes autour de moi que moi je visualise comme des ménagères. Enfin moi aussi je me visualise comme ménagère. Je pense que toutes les femmes ont les ménagères, tu l'as bien expliqué, mais il y a des femmes pour qui c'est effectivement le seul travail qu'elles font et qui pour ça sont terriblement pénalisées. J'en connais une entre autres qui est à la maison avec ses enfants, qui voudrait travailler, qui n'arrive pas parce qu'elle n'arrive pas à négocier travail enfant. Et quand je lui ai dit, mais viens, elle m'a dit, mais moi je suis pas ménagère. Je suis pas ménagère parce que pour elle, je pense hein, qu'elle identifiait la ménagère à l'aliénation de la ménagère et pas au travail.
Oui, et c'est un fait, et c'est un problème clé, parce qu'on contribue nous-mêmes à cacher ce travail-là. C'est tout à fait normal qu'un travail qui est complètement dévalorisé, on refuse de s'y identifier. Puis depuis des années, on a l'impression, et c'est vraiment toute une idéologie qui est très 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 forte, on a l'impression que les femmes choisissent d'être ménagères. Alors qu'en fait, les structures sociales sont telles, et quand je dis les structures sociales, c'est non seulement les structures d'accueil et de prise en charge pour les enfants, mais l'organisation du travail, l'organisation de cette société salariale est telle que c'est extrêmement difficile pour toutes les femmes d'entrer en emploi. C'est même, en tout cas, c'est ce qu'on prétend, nous, dans l'ouvrage qu'on a fait, que c'est tout à fait impossible, compte tenu de l'organisation actuelle du salariat, que toutes les femmes entrent en emploi. Or, jusqu'à présent, on fait circuler l'idée que c'est un choix. Et c'est un choix qui est extrêmement dévalorisé, puisqu'on a l'impression que c'est un choix un peu suranné, qui est un choix un peu vieillot, de vouloir s'occuper des enfants à temps plein, mais qu'est-ce qu'elles font toute la journée, ou je sais pas quoi. Et alors qu'en fait, il n'y a pas énormément de choix. Je veux dire, les femmes qui assument un travail salarié et assument les enfants à temps plein en même temps, bon, à Genève, on constate que c'est à peu près 25% des femmes seulement qui, en âge de travailler, qui occupent un emploi à temps plein. Et de celles-là, c'est une faible proportion finalement qui ont deux enfants. Parce que c'est extrêmement lourd, extrêmement difficile, et c'est possible dans certains types de métiers, dans certains types de professions, mais c'est loin d'être partout pareil. Et c'est vrai que dans la mesure où on prétend que c'est un choix, dans la mesure où ce choix-là est dévalorisé, dans la mesure où c'est un des rares métiers où il n'y a pas de salaire, où les conditions de travail sont fonction du bon vouloir du mari, les bons jours, et de son arbitraire, les mauvais, où il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congés, il n'y a pas de congés maladie, etc., etc. On se demande par rapport à la rationalité générale du système dans lequel on vit, ben pourquoi on choisit un métier pareil? D'autant plus que c'est le seul métier où on risque autant d'être mis à pied, puisque compte tenu des taux de divorce, c'est sûrement un des métiers où on risque le plus d'être mis à pied. C'est sûrement le métier où il y a le plus d'accidents. Il y a 3 fois plus, en Suisse, en fait, il y a même 5 fois plus d'accidents domestiques que d'accidents automobiles. Aux États-Unis, c'est 3 fois plus. Bon, c'est le seul métier où on risque autant de se faire battre sur la job, comme on dit, parce qu'il y a 10% de femmes battues au Canada, par exemple. Bon, ben, c'est 10% de femmes battues qui sont battues par leurs conjoints. Donc, je veux dire, on se dit, mais pourquoi choisir un métier comme celui-là, compte tenu, en termes strictement rationnels, ça devient difficile à justifier. C'est vrai que bon nombre de femmes se sentent plus ou moins mal à l'aise de se dire ménagère, parce que par rapport à la rationalité ambiante, ça apparaît un peu incongru, ça apparaît un peu bizarre. On comprend très bien que ce soit difficile de s'identifier comme ça. Et moi, je pense qu'au contraire, il faudrait inverser la vapeur. Il faudrait non seulement tout inscrire qu'on est ménagère, mais partout, je veux dire, sur les listes électorales, par exemple, dire ben, « je suis ménagère et professeure » ou « je suis ménagère et vendeuse et ménagère et je sais pas quoi ». Bon, parce que dans la mesure où on fait ce boulot, il faut le dire. Pourquoi continuer de le cacher plus longtemps? Je veux dire, c'est plus payant que le pétrole. Actuellement, le travail domestique des femmes. Je veux dire, on sait que dans le monde, les femmes fournissent les 2/3 des heures de travail, reçoivent le 1/10 des revenus et possèdent 1% de la propriété. Ça veut dire qu'à l'inverse, les hommes font 1/3 du temps de travail, mais perçoivent 90% des revenus et 99% de la propriété. Pourquoi culpabiliser de ça? Je veux dire, c'est quand même le comble. Je veux dire, que ce soit nous qui culpabilisions et en plus, qui ayons à nous cacher de faire ce travail-là. on a de se dire mais c'est complètement dingue. Et de la même façon, pourquoi on cache nos cernes quand on est hyper fatigué? Pourquoi on se remaquille à 5 heures à la fin de la journée en se disant il ne faut pas que ça paraisse cette fatigue-là? Pourquoi quand on rencontre des femmes qui font la double tâche, la première chose qu'on se dit toutes, c'est comment ça va? Oh ben ça va bien, mais je suis tellement fatiguée. Bon, mais c'est systématique. Sauf que ces femmes-là, quand elles rencontrent des gars, c'est pas la première chose qu'elles leur disent à ces gars-là. C'est ah oui, ça va très bien. Bon, et on passe notre temps à se cacher, à cacher notre tablier, à cacher nos cernes, à cacher notre travail partout et à cacher les marques de notre travail. Je veux dire, regardons les cuisines maintenant. Il n'y a plus les grandes cordées de linge, il n'y a plus le moulin à laver le linge au centre de la place. Tout est caché. Les meubles sont encastrés. On cache y compris les grille-pains sous des housses. Bon, on cache notre travail, on cache les marques de notre travail, on cache notre tablier et on affiche un sourire, mais c'est aberrant. Je veux dire, qu'on montre, quand les gars, ils font une recette de cuisine, non seulement ils montrent, mais ils en parlent pendant 2 heures. Je veux dire, alors que nous, on dit, mais voyons, donc, mais non, c'est rien, ça a pris 3 secondes à faire. Je veux dire, c'est fou. Et il faut vraiment inverser la situation. Sinon, effectivement, ils vont continuer d'avoir l'impression que c'est rien.
Et puis, il y a d'autres éléments aussi qui contribuent à le cacher, ce travail, qui sont liés. Sont liés aussi à tout ce que tu as dit, le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à l'extérieur, si elles ne travaillent pas à plein temps, à vie, mais elles ont une fois dans leur vie une expérience professionnelle au moins. Donc il suffit qu'on ait une identification à un travail professionnel pour que on cache ce travail ménager qu'on continue de toute façon à faire. Et puis, il y a aussi l'évolution du travail ménager. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu. C'est-à-dire,
t'as raison.
C'était ce travail qui s'est un peu transformé avec les années. Non?
Bah oui, c'est qu'en fait, quand on parle du travail industriel, on sait très bien que maintenant, la plupart des travailleurs se retrouvent dans le secteur tertiaire et non plus dans le secteur secondaire ou primaire. Et donc, nos conceptions de l'emploi, nos conceptions du travail ont changé. Sauf que par rapport au travail domestique, on est resté avec des images complètement stéréotypées de production domestique liée à la transformation des aliments, par exemple, liée à la transformation des produits. Bon, les femmes qui faisaient boucherie, qui faisaient leur pain, qui faisaient des gâteaux, qui faisaient les vêtements, etc., etc. Or, c'est vrai que maintenant, c'est des services, de plus en plus des services aux individus, donc beaucoup de services psychologiques. On se rend compte que aux États-Unis, par exemple, les femmes des banlieues américaines passent à peu près une journée par semaine en temps de transport pour aller reconduire les enfants, à la partie de hockey, au cours de ballet, à l'école, à la garderie, je sais pas quoi. Et c'est une journée par semaine, mais oui, de transport. C'est le temps de magasinage, par exemple. Faire les courses. Ben ici, on dit faire les courses. Le temps pour faire les courses. Combien de fois c'est identifié à du loisir? Alors que quand on n'a pas un sou en poche, faire les courses, mais vraiment, c'est loin d'être un loisir. C'est même plutôt très, 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 très emmerdant. C'est la même chose pour le temps d'attente dans les bureaux de médecins. On a même calculé, dans la recherche, je me souviens, on a mis les chiffres quelque part, mais je les ai plus en tête, là, sur le nombre de milliers d'heures perdues en attente pour les femmes dans les bureaux de médecins. C'est aussi le transport des aliments. Bon, on a calculé, par exemple, en Allemagne, en 1954, que le poids que les ménagères allemandes transportaient dans leur cabas durant un an, ça représentait tout le poids du transport du pétrole par les chemins de fer allemands. Bon, c'est quand même significatif, tout ça. Et pourtant, on dit, font les courses, c'est du loisir. Et c'est vrai que les activités, maintenant, c'est des activités qui sont plus liées aux individus, c'est des activités davantage psychologiques. Par exemple, toutes les tâches de gestion des rapports amoureux, des rapports affectifs, mais ça prend un temps dingue, parce que c'est vrai que les relations sont plus fragiles qu'elles étaient, et qu'il faut davantage négocier, qu'il faut davantage continuer à être séduisante. Bon, c'est le mois de mai, donc qui n'est pas au régime de ce temps-là, tu vois, qui n'arrête pas de manger des gâteaux en se disant que peut-être il faudra au moins passer un régime. Bon, je dis, mais ça va dans tout, tu vois, sur l'habillement, sur plein de choses. Et ça fait partie aussi de toute une gestion des rapports. Or, dans le milieu du travail, quand des gens s'occupent de relations publiques, par exemple, c'est considéré comme un boulot. Mais quand on s'occupe de relations publiques pour continuer à assurer la gestion des rapports familiaux au niveau de la famille élargie, par exemple, penser à la fête de la belle-mère et penser aux cadeaux pour la naissance de la nièce ou je ne sais pas quoi. Ça fait partie de la gestion des rapports. Je veux dire, dans les usines, il y a des psychologues industriels qui s'occupent de ça. À la maison, je veux dire, c'est les femmes qui s'occupent de ça. Et toutes les tâches sont complètement démultipliées. Les services culturels, les services de loisirs, au fond, ça suit la tertiarisation de la société et le travail domestique est de plus en plus tertiarisé. Or, ça, c'est invisible parce qu'on ne le voit pas. Il n'est pas matériel. Et qu'au fond, quand on dit « on ne le voit pas », on exclut la personne qui parle. Et c'est-à-dire, c'est les hommes qui ne le voient pas, parce que les femmes, elles savent bien ce que ça prend comme temps.
C'est-à-dire que...
Toi, tu n'es pas d'accord. Je vois Viviane qui a l'air de dire « non, les femmes n'ont pas l'air de le savoir ce que ça veut dire comme temps ».
Non, ce que je veux dire, c'est que dans un lieu de travail, de fait, ton temps de travail, tes gestes, tout est conditionné de fait par une organisation du travail qui est dite, qui est verbalisée, qui est, il y a des agents de méthode, tu peux avoir, c'est écrit dans des livres, même si après il y a une organisation du travail souterraine, il y a un cahier de charge, avec un patron que tu peux visualiser, qui est lui, qui de fait gère ton temps de travail, gère ta santé, gère tes conditions de travail, gère ta production. Donc tu sais que si tu fais des relations publiques, c'est en face à ton patron. Alors ça, je trouve que c'est moins clair dans le travail ménager. Et c'est objectivement moins clair. C'est pas seulement subjectivement moins clair parce que notre patron, on l'identifie aussi à quelqu'un qu'on aime. C'est de fait moins clair parce qu'il y a aussi, il y a cette relation d'amour et puis il y a aussi cette...
Oui, sauf qu'il faudrait être davantage clair sur ce qu'on entend par l'amour. Je veux dire, pourquoi ce serait un amour tout le temps à sens unique? Pourquoi cet amour-là se ferait en sorte que c'est nous qui nous payons l'essentiel du boulot? Moi, je ne considère pas qu'un homme m'aime. Je veux dire, s'il ne lève pas le nez de son journal pendant que je fais la vaisselle ou que je m'occupe des enfants ou que je ne sais pas quoi. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, cet amour-là? Je veux dire, c'est un amour complètement schizophrène. Je veux dire, on a exigé une qualité de l'amour, quoi. Je veux dire, on n'a pas accepté ça. C'est complètement dingue.
Mais oui, mais alors là, justement, on tombe dans ces tâches psychologiques, dans ces tâches de relations publiques. Là, je veux dire, si on entre en relation sur « on va changer la qualité de l'amour », c'est là qu'on se paye tout ce boulot monstrueux dont tu dis
qu'il fait
la nouvelle trame du
travail ménager. On n'a pas le choix. Il faut, en même temps, pour changer les rapports de travail domestique, il faut aussi changer les rapports avec les enfants, s'ils nous considèrent par exemple comme leur servante, ce qui est parfois le cas, et souvent plus ils vieillissent, plus ils ont l'impression qu'on est à leur service, et changer parfois les rapports aussi avec le conjoint, si ça s'est suffisamment mal barré au départ pour qu'il y ait eu l'impression qu'on était aussi à son service. Moi je pense qu'on n'a pas le choix. Les rapports de travail pour nous sont aussi les rapports affectifs, sont aussi les rapports amoureux. Et par exemple, il s'est passé une histoire très drôle il y a quelques mois à Toronto, une autre ville canadienne, où il y a une femme comme ça, individuellement, qui a décidé de faire une grève. Et je ne sais pas trop par quel hasard, ça finit par passer à la radio 3 fois par semaine, le matin, au moment où il y a une très très haute cote d'écoute, et où il y avait des reporters comme ça qui allaient, et moi j'ai eu des bandes de ça, c'était très drôle, et où elle avait décidé de faire la grève du travail domestique, et elle avait 2 enfants de 8 ans, de 12 ans, et son mari qui au départ était loin d'être tout à fait d'accord, et pendant un mois, ils ont fait cette espèce de journal quotidien sur ce qui se passait au niveau de la grève, tu vois. Et c'était extrêmement intéressant de voir comment les enfants réagissaient au bout de 3 semaines, un mois, parce qu'ils avaient compris que, leur mère avait le goût de faire d'autres choses dans la vie que de s'occuper d'eux uniquement à temps plein et à n'importe quelle condition. Et le mari a aussi assez bien pris la chose. Et moi, je pense qu'il y a des possibilités de négocier tout ça. Et les grèves, il y en a de toutes sortes. Je veux dire, si notre travail vaut si cher, les grèves ont une importance majeure. C'est-à-dire, l'arrêt de ce travail-là, ça vaut aussi très cher. Et il y a plein de façons d'arrêter. Il y a plein de façons de diminuer notre travail, de l'auto-réduire. Mmh. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est toute seule avec des enfants, par exemple. Et que là, ça implique d'autres types d'organisation, d'autres types de gestion du temps. Mais on n'a pas le choix. On ne peut plus continuer à supporter le monde comme ça.
On écoute un peu de musique. Mmh.
une autre illusion qu'on se fait, une autre idée toute faite sur le travail domestique, et cette idée que le travail domestique, il est en train de disparaître, que les appareils électroménagers, on réduit, il n'y a plus grand chose à faire, et puis il faut attendre quelques années, puis il reste viendra avec, et puis il va disparaître.
Ouais. Alors qu'en fait, c'est tout à fait faux. Non seulement les appareils domestiques n'ont pas permis vraiment de réduire le travail domestique. Il n'y a que le four micro-ondes qui permet de réduire et à peine 10 minutes par jour. C'est le seul. Tant qu'au lave-vaisselle, il permet de réduire en fait de 2 minutes par jour. Mais il permet surtout, ce qui est important aussi, il permet psychologiquement de cacher la vaisselle sale. Mais c'est vrai. Mais en termes de réduction du temps de travail, c'est pas véritable. Et d'autre part, c'est que parallèlement à l'avènement de ces appareils ménagers, il y a une augmentation des normes, une augmentation des critères du travail domestique. Par exemple, on ne fait plus un lavage saisonnier pour le linge, on ne fait plus une lessive, mais on en fait une par semaine ou deux ou trois par semaine, bon, dépendant si on a des enfants en bas âge. Et tout est à l'avenant comme ça, bon, pour la préparation des repas, pour la présentation des repas, et en plus, c'est investi psychologiquement, c'est-à-dire que changer la couche d'un bébé, maintenant, langer un enfant, ça va influencer son caractère pour la vie, hein, c'est évident, et que, bon, je veux dire, tous les gestes deviennent tout à fait investis, ça devient son image de marque, ça devient l'image de son amour pour les siens, et donc ça devient encore plus lourd tout ça, et par conséquent, on ne peut pas dire qu'il y a réduction du temps de travail, parce qu'il y a augmentation des normes, il y a diversification des activités, il y a tertiarisation des activités, donc des activités moins visibles, etc. D'autre part, au fur et à mesure que le marché prend en charge certaines activités, ou que l'État prend en charge certaines activités, il y a de nouvelles activités qui sont reproduites à tout coup. Par exemple... et y compris parfois au nom de la modernité. Bon, je ne sais pas si vous avez ici ces types de magasins, la suédois comme Ikea ou des magasins comme ça, où au nom de la modernité, on va chercher ces meubles dans des entrepôts, on les monte soi-même chez soi. Bon, la vogue du bricolage, par exemple, ou encore des produits naturels. Vous avez le comment ça s'appelle, ce truc Kousmine le matin, là. Bon, alors c'est très bon d'ailleurs, mais c'est drôlement long à faire. Je veux dire, combien de femmes se lèvent une demi-heure plus tôt pour pouvoir faire ça? Et au nom de la modernité, souvent paradoxalement de l'écologie, on augmente aussi son temps de travail. Et il faut voir que la raison d'être du travail domestique, à savoir permettre d'acheminer l'ensemble des marchandises gratuitement, c'est-à-dire sans que ce soit payé. On sait très bien que dans un hôpital ou dans un hôtel, il y a des gens qui sont postés pour acheminer toutes les marchandises, pour les préparer, pour préparer les repas, pour les servir, pour les présenter, etc., etc. Toutes ces tâches sont faites gratuitement à la maison. Et ça reste une activité fondamentale. S'il fallait payer pour l'ensemble des activités domestiques... c'est des sommes faramineuses qui sont en jeu. Je veux dire, c'est souvent entre un quart et trois quarts du produit national brut. Donc, c'est fantastique. Et ça change pas. C'est bien que les raisons d'être du travail domestique sont toujours là. Et d'autre part, au niveau du travail salarié, c'est parce que des gens s'occupent à temps plein et des enfants, c'est-à-dire de la reproduction de la force de travail, mais aussi de la force de reproduction, pendant que quelqu'un est en emploi, que ces gens-là peuvent être libres d'entrer en emploi et peuvent avoir des conditions de travail comme ils ont actuellement, c'est-à-dire de travailler 40 ou 45 heures. À partir du moment où on imposera le fait que, par exemple, avoir des enfants, ça implique des contraintes, où les hommes auront des congés parentaux pour s'occuper des enfants qui sont malades à la maison. De la même façon que nous, on pourra imposer ce genre de choses-là. C'est vrai que ça modifiera profondément. Mais pour l'instant, toute la structure de l'organisation du travail repose sur le fait qu'il y a une très très large partie de la main-d'œuvre féminine, c'est-à-dire plus de la moitié de la main-d'œuvre féminine, qui est au service de l'ensemble de la main-d'œuvre. Parce qu'il faut bien voir que, y compris pour les femmes qui travaillent, on ne pourrait pas réussir à travailler si il n'y avait pas des gardiennes d'enfants qui sont payées, mais souvent au noir et à très faible coût, s'il n'y avait pas des mères, des belles-mères, des sœurs, des voisines qui, le jour où l'enfant est malade, peut s'en occuper comme ça à pied levé. Et donc, il y a la moitié de la population féminine qui soutient en fait l'organisation actuelle du travail. Et c'est un petit peu contre ça qu'on s'élève, parce que on voit pas pourquoi les femmes paieraient si cher dans leur vie le fait d'être aussi indispensables à cette société. On pense que c'est tout à fait irrationnel.
Oui, et je voulais aussi rajouter que on va continuer cette discussion dans ce colloque. Surtout nous interroger sur les solutions. Et j'ai entendu que tu as parlé du congé parental, mais j'ai aussi remarqué en lisant ton livre que tu fais un peu un bilan de l'utilisation que les hommes font de ces congés parentaux accordés, par exemple en Suède, où il y a une politique sociale.
C'est un peu comme le partage des tâches. Voilà, c'est pas encore très, très, très brillant. Mais moi, je pense que parmi les choses qu'on peut remettre en question et qui sont fondamentales, il ne s'agit pas nécessairement pour l'instant de donner davantage aux hommes, mais peut-être de remettre en question la conception masculine de l'emploi et la place des hommes dans l'emploi. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'il faut commencer à faire. Ouais. Bon, ben voilà, sur ces propos, on se quitte.
Oui, et puis rendez-vous à la Maison des Jeunes, au 5 rue du Temple, jeudi soir, toute la journée de vendredi et samedi, et le soir de samedi, il y aura un spectacle, un théâtre. Vous êtes toutes invitées.
À bientôt.
À bientôt.